400 enfants qui sont nourris, enseignés par le ministère de Michel et Louis Charbonneau. Donc, vraiment, on bénit Dieu pour ce qu'il fait et de les garder ainsi en prière. C'est une bonne chose, vu aussi les défis sociaux, économiques et politiques qui prennent place en Haïti. Vous savez, c'est à travers plusieurs retraites et événements que Dieu m'a propulsé dans son appel. Je me souviens, un de ces moments-là, j'étais à une retraite jeunesse, et c'est un missionnaire qui était l'invité, et il a fait un appel, et l'Esprit de Dieu m'a saisi, je tremblais, et je ne pouvais pas rester à ma place. On dirait que mes jambes, mon corps, étaient en train simplement d'être soumis au Saint-Esprit. Je me suis avancé et visité par Dieu pour répondre à son appel. Dieu a semé plusieurs choses comme ça dans ma vie. Et d'aller, et de participer, de prendre part à cette conférence, elle se lève et avance. Tu vas te lever et avancer. Et n'attends ni que ton époux se lève et avance pour te lever et avancer, ni ton entourage ou ta connaissance, tes connaissances, tes amis ou tes collègues. Toi, réponds à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher du haut d'un pupitre, mais il y a tant d'hommes et de femmes qui ont un impact, hein, parce qu'ils ont décidé de répondre à l'appel de Dieu. Ils ont un impact dans le milieu où Dieu les a placés, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Ils emmènent une révolution. Leurs enfants sont bouleversés, même des fois sur le milieu du travail. Et c'est surtout principalement cela. Dieu nous appelle à briller là où il nous place. Ce matin, avant d'apporter la parole, je me suis donné le défi de prendre 3, peut-être 4 minutes, donc vous pouvez me chronométrer, pour vous présenter rapidement notre nouveau site internet. Ça fait plusieurs semaines qu'il est en ligne, qu'il est fonctionnel. Et nous avons voulu aussi prendre la main, avoir une bonne équipe qui gère ce site internet. Et je prends le temps de vous en parler parce que c'est un miracle pour nous. Une chef d'entreprise qui nous a offert de faire notre site internet. Lorsqu'on a magasiné pour faire un site internet qui a de l'allure, il fallait mettre 6 000 $ avant taxe pour cela. Il dit waouh. Puis là, c'était avant le conflit ukrainien. Donc, sans compter l'inflation, probablement on serait dans les 8 000 $. Et cette chef d'entreprise nous l'a offert gratuitement. Un matin, elle priait, puis un mercredi matin, le Saint-Esprit la réveille et dit, tu leur offriras le site internet. Et donc, elle a mobilisé les ressources de son entreprise pour bénir le Carrefour des Nations. Donc, vraiment, on peut bénir le Seigneur ce matin pour cela. Vous pouvez même acclamer le Seigneur. Parce qu'il n'y a eu aucune négociation et elle a obéi à Dieu. Donc, Valérie, je te dis merci. Alors, nous avons donc un nouveau site internet comme vous le voyez à l'écran, où on veut vraiment présenter non seulement l'équipe, mais aussi la vision de l'Église, la mission du Carrefour des Nations. Vous voyez déjà, c'est écrit « Expérimenter Dieu ». Connaître Jésus et le faire connaître par la puissance du Saint-Esprit, ça c'est notre vision. La diapositive suivante présente justement la même page d'accueil avec des images différentes. Vous pourrez même aller sur le site et voir aussi le calendrier. Donc ici c'est « Elle se lève et avance », notre calendrier d'événements. vous permet, lorsqu'il est nécessaire de vous inscrire, de cliquer, vous êtes redirigé directement, que ce soit sur Eventbrite ou sur un formulaire d'inscription. Nous avons aussi, comme vous le voyez, nous avons aussi le dernier culte en ligne qui est mis à jour sur notre site internet. Donc ça permet justement, si tu veux réécouter le culte, tu peux simplement, via notre site, l'écouter. Il y a aussi tout ce qui est, comme je disais, donc événements. Donc il y a un menu déroulant qui présente aussi les ministères. Donc il y a certains ministères ont été mis sur notre page pour t'informer des services qui sont offerts. Donc c'est sûr que c'est une liste de ministères qui va être enrichie, mais nous avons quelques ministères vraiment très intéressants, qu'on parle d'un investissement dans la vie des couples, par exemple, ou les activités auprès des poupons. Donc, vous avez aussi le calendrier de tous les événements de la semaine ou du mois et certains événements du mois prochain. Je voulais aussi mentionner, peut-être vous ne le verrez pas très bien, mais en haut de notre menu, nous avons ce qu'on appelle « Mon profil ». Donc c'est une fonction pour tous ceux et celles qui fréquentent le Carrefour des Nations. Il te sera possible de te connecter à ton profil et d'avoir des informations en primeur concernant le Carrefour des Nations, mais aussi des informations en lien avec si tu dois faire une mise à jour de ton adresse. Si vous déménagez cet été, vous pourrez vous-même faire des mises à jour. Donc il y a différentes informations qui sont disponible en cliquant sur mon profil. La page suivante donne un exemple à quoi ça ressemble. Donc il faut te cliquer et puis il y a un profil qui est généré avec l'administration. On va te donner c'est lié avec notre adresse courriel. C'est confidentiel, c'est uniquement pour toi. Ok. Donc, en indiquant ton courriel et en rentrant dans ce profil-là, il y a un exemple. C'est mon profil à moi. Donc, normalement, la page suivante va donner un court exemple. Donc, il y a plusieurs informations. Comme moi, je suis aussi un leader, donc j'ai accès à des ressources pour les leaders, à des formulaires qui ont été générés au calendrier. Puis, en haut, sur le menu, je peux faire des dons. Je peux avoir des informations sur les prochaines activités. Je pourrais directement m'inscrire via mon profil. Alors, c'est un outil que nous sommes en train de développer pour centraliser des informations et répondre plus rapidement aussi à des besoins. Comme ressources, nous avons aussi les prédications qui sont sur notre site internet. Oui, je n'ai pas manqué, je suis sur la bonne page, non. Avant les prédications, merci. Il y a aussi agir. Agir, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à la générosité, donc à travers nos dons. C'est une façon, justement, c'est une forme d'adoration. Donc, vous pouvez faire des dons via notre page web. Mais aussi, agir touche à... la générosité sous forme d'action. On désire, dans une famille, on désire s'impliquer, on met la main à la pâte, et le Carrefour des Nations, c'est une famille. Et donc, si tu veux t'impliquer, si tu veux aussi faire bénéficier les autres de tes dons, de tes talents, sur notre page, tu peux jeter un coup d'œil et choisir justement où tu voudrais t'impliquer. C'est ça, donc là je vais aller à la page 5 de mes notes. Donc oui, il y a des ressources pour l'Église au niveau des prédications. Donc nous avons chaque prédication du dimanche qui sont accessibles via notre page web. C'est un lien en fait qui reconduit à notre page YouTube, mais vous pouvez écouter le message directement sur notre page web, notre site web. Il y a aussi la louange qui est présentée et qui est accessible au niveau de notre site web et c'est vraiment intéressant. Hier soir encore, j'écoutais la louange du Carrefour des Nations. Moi, j'aime beaucoup prendre des temps worship et je vais sur différentes plateformes chrétiennes, différentes églises sur YouTube, mais aussi je vais sur le YouTube du Carrefour des Nations et je suis béni. Je mets de la louange en boucle comme cela et j'ai eu le témoignage de plusieurs personnes justement qui disaient mais c'est bénissant d'avoir justement une section prédication et une section louange, comme ça on peut avoir une playlist et louer le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons offrir une louange de qualité, un son de qualité, et c'est souvent grâce à nos dons, à vos dons, qu'on peut veiller justement à avoir des produits de qualité. Donc là, c'était rapidement, je tenais à vous présenter notre site internet. Soyez à l'aise de le visiter, de faire des commentaires. Comme ça, ça nous permettra aussi d'améliorer les choses. Ce matin, maintenant, j'aimerais, pour la demi-heure à peu près qui nous reste, vous partager mon cœur, mais partager aussi la vision du Carrefour des Nations. Et je vais prendre le temps, si je donnerais un titre à ce partage, ce serait « Expérimenter Dieu », 2 points, « Connaître Jésus et le faire connaître ». Alors, avant de vous partager cela, j'aimerais qu'on prie ensemble. Et vous pouvez prier que mon ordinateur ne lâche pas, ne tombe pas du pupitre. C'est super. Il tient le coup, là. All right. Amen. Seigneur, ce matin, je veux te présenter ce temps. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Nous voulons nous positionner, Seigneur, nous aligner à ce que tu déclares concernant ton Église, à ce que tu déclares concernant le Carrefour des Nations. Et je crois, Père, que, Seigneur, dans chaque Église locale, Seigneur, qui te cherche, qui te poursuit, tu es présent, tu es en action. Dans chaque église locale où il y a cette fin de ta parole, Seigneur, où ta parole est enseignée, prêchée, Seigneur, tu agis dans les cœurs. Et je crois que dès qu'on lit ta parole, Seigneur, il y a une action de ta parole dans les vies. Que tu puisses bénir ce moment, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous dynamiser, que nous puissions ressortir de ces temps dans ta présence, dans la communion fraternelle, ressortir de ces temps dynamisés et enthousiasmés dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez, je crois que l'Église avec un grand E, l'Église universelle, l'Église qui en fait regroupe tous les croyants, tous les chrétiens et disciples de Jésus véritables. Cette église est l'endroit le plus important sur terre. Parce que l'église communique, répand Jésus-Christ. Et rapidement, je ne vais pas, enseigner sur qu'est-ce que l'église, mais je vais rapidement donner quelques lignes afin qu'on réalise que le mot église, on le retrouve dans Matthieu 16, mais c'est un mot grec et en grec, c'est Ecclésia. Et l'Église, je ne veux pas parler de l'Église institutionnalisée, parce que Dieu n'a pas institutionnalisé, ce n'est pas une institution, Dieu n'a pas établi des religions, une religion qu'on doit suivre, mais Dieu a bâti son Église et Jésus est la tête de l'Église, il est mort pour son Église. Dans la parole de Dieu, l'Église est représentée comme le peuple de Dieu. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. L'Église représente aussi le peuple appelé hors d'eux, parce que le mot « ecclésia », c'est « assemblée », mais « hors d'eux ». Ça fait référence à un rassemblement de gens appelés hors d'eux, des gens qui sont convoqués, qui se mettent à part. Dans le Nouveau Testament, ce terme désigne principalement le rassemblement du peuple de Dieu en Christ, qui se réunit en tant que citoyen du royaume de Dieu pour l'adorer. Et souvent, dans le Nouveau Testament, le mot « église » fait référence à l'assemblée locale ou à l'église universelle. L'église représente aussi le temple de Dieu et du Saint-Esprit. L'église est le corps de Christ. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 16. L'église est l'épouse de Christ, comme il est mentionné dans Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 27. L'église est une communauté spirituelle. Et si on dit c'est une communauté ou une communauté spirituelle, ça sous-entend que dans l'église locale, la présence du Saint-Esprit est là. L'unité est présente. L'église est un ministère spirituel qui s'exerce à travers l'utilisation des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. L'église est une armée impliquée dans un conflit spirituel. L'église prie, se tient. L'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des principautés, contre des esprits méchants. Maintenant, nous ne faisons pas la chasse aux démons, ok? Nous désirons marcher avec Dieu et faire sa volonté. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. L'Église est un peuple avec une espérance future. Cette espérance est centrée sur le retour de Christ qui viendra chercher son peuple. L'Église est à la fois visible et invisible. Elle est invisible parce que elle est représentée par le corps des croyants véritables qui sont unis par leur foi vivante en Christ. Mais elle est aussi visible parce qu'elle est constituée des assemblées locales qui se rassemblent non seulement, qui rassemblent non seulement les vainqueurs fidèles, mais aussi ceux qui déclarent être chrétiens mais qui ne le sont pas malheureusement. L'église locale. Ce matin, j'aimerais parler d'une église locale, de notre église locale, de notre assemblée. Vous savez, notre église est comme toutes les autres églises locales, avec ce désir de voir la vérité écrite de Dieu être communiquée, être proclamée et être vécue. Nous désirons expérimenter tout ce que la Bible enseigne sur la vie avec Dieu. Nous désirons être instruits concernant la parole de Dieu, concernant les vérités bibliques. Mais nous désirons aussi proclamer cette parole et nous désirons la vivre. Pasteur Marjorie a mentionné à un moment donné dans ce matin qu'il y a une sœur qui elle a simplement dit. Elle a réalisé qu'on connaît des passages bibliques, mais des fois, on ne met pas en pratique ces passages bibliques. On ne met pas en pratique la parole. Mais le Saint-Esprit nous aide à mettre ces choses en pratique. Vous savez, l'Église est là pour présenter la réalité au monde. Il y a un auteur qui a dit que l'Église est la conscience de la société. L'objectif de l'Église n'est pas d'aider les gens à passer du bon temps tous ensemble, mais plutôt de les pousser à mûrir, à croître dans la foi en étant enseignés et en enseignant les autres à leur tour. La parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à être perfectionnés afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a des gens qui prient et puis Dieu leur accorde des visions. Dieu leur raconte des songes. Joël chapitre 2 dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Ils ont des songes. Et Dieu leur parle de choses présentes, les concernant ou concernant quelqu'un, et Dieu leur demande de prier. Il y a des personnes qui ont des visions ou des paroles de connaissance. Lorsqu'ils mettent en pratique, lorsqu'ils marchent dans des dons spirituels, ils peuvent avoir des paroles de connaissance pour encourager. Certains, je parlais avec une sœur, elle prie pour quelqu'un et la personne est guérie. Moi, des fois, je prie pour quelqu'un et la personne meurt. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé dans un hôpital. Il y a une sœur de l'église qui m'a dit, ah, est-ce que tu peux venir? J'ai une collègue qui est en phase terminale d'un cancer, ça ne va pas. Peux-tu venir prier, puis l'encourager? Puis je dis, Seigneur, OK, on va y aller. J'ai été lui rendre visite et je l'ai encouragée. Elle avait donné sa vie au Seigneur. J'ai prié pour elle, pour la guérison, puis quelques semaines plus tard, cette personne est décédée. Mais je vois, je côtoie des personnes qui, elles prient, puis les gens sont guéris. Je dis, waouh! C'est ça, c'est pas le pasteur qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Et nous voulons justement que l'Église puisse répandre la vérité, afin que les gens puissent voir la vérité et la comprendre. L'Église est supposée répandre la vérité, répandre Jésus. Nous ne pouvons pas, comme Église locale, je ne peux pas envisager que l'Église locale soit une Église de spectateurs. Non. Si vous voulez être spectateur, allez sur YouTube. Mais une Église locale ne peut pas être composée de spectateurs. On a ce privilège, des fois, comme pasteur, de s'asseoir, de rencontrer des frères et sœurs, puis quand on entend leur témoignage, ce que Dieu fait dans leur vie, on dit, waouh, il faut que le monde entende ça. Ce que Dieu fait dans leur vie, pas ce que le pasteur fait dans leur vie. Le pasteur ne... c'est nous qui devenons spectateurs de l'œuvre de Dieu. Vous êtes, l'église locale est composée de croyants, de chrétiens, de disciples de Jésus véritables qui vivent une relation avec Dieu, qui portent Christ et qui le répandent. Et quand tu entends ce que Dieu fait à travers la vie de quelqu'un qui connaît Jésus, tu es béni, tu es encouragé. Lorsque quelqu'un au travail te dit, mais qu'est-ce que tu as fait dimanche? Moi, quand j'ai commencé mon premier emploi, c'était magnifique. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et le lundi, on mangeait tous ensemble, les employés, c'était une petite entreprise. Et il y avait une de mes collègues qui disait, OK, dimanche, qu'est-ce que tu as fait? Samedi, tu as fait quoi? Et puis là, elle gratte, ah oui, moi j'ai fait telle chose. Oui, on a été là, puis on a fait telle chose. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, j'ai été à l'église dimanche. Ah oui, tu vas à l'église, c'est quoi ça? Et puis tu racontes ce que tu fais. Tu dis, oui, mais moi je crois en Dieu, je crois en Jésus. Tu dis, ah ouais, puis comment ça se passe? Et puis on lui explique. On avait une voisine dans un des logements qu'on avait à Québec, une voisine qui avait une fille, puis nos enfants jouaient avec elle. Et puis elle nous voyait, on venait, ça faisait pas longtemps qu'on avait déménagé, puis elle nous voyait partir le dimanche matin, puis... Elle dit, mais le dimanche, qu'est-ce que vous faites comme ça? Elle dit, nous, on va à l'église, on croit en Jésus, et puis on est des croyants pratiquants. Elle dit, ah oui, mais moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais une amie qui était de telle confession. Est-ce que vos enfants ont le droit d'aller au cinéma? Elle dit, oui, ils ont le droit d'aller au cinéma. Et puis, on répond, puis on apprend à se connaître. Elle me dit, waouh, c'est vraiment intéressant. Mais il est arrivé à un moment donné qu'une de nos voisines avait besoin qu'on prie pour elle. Et elle nous a demandé de prier pour elle. Répandre Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas spectateur, tu es appelé à être un acteur. Tu es appelé à jouer un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas croire les mensonges que tu dois rester assis. Non, au contraire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en toi est celui qui a ressuscité Christ. d'entre les morts. Alors quand tu partages ta foi, ce que tu as vécu, qui peut dire le contraire quand tu dis la vérité? Il dit, mais voilà ce que j'ai vécu, toi aussi tu peux le vivre. J'ai voulu me suicider quand j'étais adolescent. Et Jésus m'a sauvé de cela, il m'a délivré. Qui peut se dresser et me dire, non, ce n'est pas vrai. Mais t'étais là? Non, tu n'étais pas là. Ma mère était là, mon père était là. Mon père a vidé tous les tiroirs de la cuisine, tous les ustensiles, couteaux, il a tout retiré. Il peut vous témoigner ce que j'ai vécu. Et Jésus est venu me sauver. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Raconte. Raconte autour de toi ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ça l'église locale. L'église soutient et protège la vérité dans le sens que Dieu appelle l'église à travers chaque véritable chrétien, chaque véritable disciple de Jésus à recevoir la parole de Dieu, la Bible, rendue vivante par le Saint-Esprit et à la propager, à la répandre, à l'expliquer et à la confirmer par l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. Ce que tu vis, quand Dieu te met, quand tu pries, puis il y a des moments, il y a des matins, tu te lèves plus tôt, Dieu te met à cœur de prier, il y a un chant qui monte sur ton cœur, ou la nuit tu te réveilles et puis tu as à cœur de prier pour quelqu'un. Et dans la semaine, dans le mois, tu rencontres cette personne et elle te dit, mais ouais, j'ai vécu telle chose. Elle dit, mais j'ai prié pour toi et Dieu a agi. Quand des fois Dieu t'amène dans un songe, Dieu déjà nous a montré des choses concernant l'Église, concernant une sœur qui voulait des enfants, n'était pas au courant. Elle voulait des enfants et ça ne fonctionnait pas. Elle a eu des fausses couches et elle le disait à personne. Et dans un songe, Dieu montre qu'il y a une lutte, qu'il faut lutter, qu'il faut prier pour cette personne, pour qu'elle enfante. Et on prie pour cela. Et dans ce songe, Dieu dit, elle sera enceinte. Et 3 mois plus tard, comme par hasard, dit, mais là, on voit que tu es enceinte, mais il y a 3 mois, et voici ce qu'on a vécu, on a eu ce songe-là. Il dit, oui, effectivement, je vivais, cette jeune femme enceinte disait, il y a 3 mois, je vivais une oppression. On avait, l'année d'avant, on avait perdu un enfant. On a eu une fausse couche et c'était difficile. Et j'étais dans un moment de découragement. Et il y a 3 mois de ça, j'ai senti Dieu me fortifier. Et aujourd'hui, 3 mois plus tard, je suis enceinte. Et mon épouse a raconté ce songe et ça a fortifié sa foi. Combien de fois on peut avoir une parole d'encouragement, juste des fois même un verset, alors que tu pries, tu as un verset, tu dis, Seigneur, pourquoi tu attires mon attention sur ce verset? Et quand tu es au travail ou quand tu es avec un membre de ta famille, tu réalises que le contexte de vie de cette personne nécessite ce verset et tu l'encourages. Une église et des chrétiens qui encouragent les autres vont amener ces personnes à vivre des victoires, à passer des fois de moments de désespoir à des moments d'espoir, d'encouragement. L'encouragement est puissant. Et c'est ce que l'Église fait. Elle encourage, elle amène, elle répand la vérité. L'Église est appelée, comme je disais, à répandre Jésus. Vous savez, moi je prie, Seigneur, je dis, accorde-moi d'être le moins charnel possible, parce que l'Église n'a pas besoin de démonstration charnelle. Non. Parce que quand l'Église a besoin d'une démonstration du Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Là où il y a du mensonge, le Saint-Esprit n'est pas là. Là où il y a du mensonge, le Saint-Esprit ne peut pas cautionner ce qui prend place. Parce qu'il ne peut pas être à l'encontre de sa nature. Donc, que Dieu nous garde toute démonstration charnelle, mais que Dieu nous remplisse d'une démonstration du Saint-Esprit. J'aime ce verset dans la version Parole de vie, dans Jean chapitre 6, verset 63, qui dit « C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mais la parole, la version parole de vie est intéressante. L'homme tout seul ne peut rien faire. L'homme tout seul ne peut pas se sauver. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. J'aimais ce qu'un pasteur disait, la mission de l'Église, ce n'est pas d'évangéliser. J'aimais ça. Si je vous dis la mission de l'Église, ce n'est pas d'évangéliser, ça ne vous dérange pas? À moins que vous dormez, je ne sais pas. Mais ce pasteur a dit, en fait, la mission de l'Église, ce n'est pas d'évangéliser, mais c'est la mission de chaque chrétien. Aller par le monde. Hier, il y a une équipe qui est allée évangéliser. Est-ce que c'est vrai? Ils étaient là. J'ai vu plusieurs qui priaient. Okay. Et on a hâte au témoignage. Soyez à l'aise de m'écrire. Je n'ai pas encore fait de suivi avec eux. Mais c'est la mission de chaque chrétien d'être des témoins. C'est la mission de chaque chrétien d'aller par tout le monde, de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas à l'Église. Ce n'est pas à l'Église qui doit faire des disciples, mais c'est chaque chrétien qui fait des disciples. Quand, à chaque fois que je prends un temps avec quelqu'un, même avant d'être pasteur, d'inviter cette personne chez moi, de prendre du temps avec elle, avec un frère, ou quand on s'est marié, on invitait des gens, on investissait dans leur vie. Ils nous partageaient ce qu'ils vivaient. On donnait des conseils, on priait ensemble. On emmenait, et je me souviens d'un jeune comme ça qui est venu chez nous. On était des jeunes mariés. Il est venu chez nous, on a investi dans sa vie. Il est devenu un leader majeur de son église. Et ne sous-estime pas Jésus qui habite en toi. Et c'est vrai, tu vas dire, mais bon, je ne suis pas un théologien. Non, mais tu es un témoin, tu es un enfant de Dieu. Et tu peux partager ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu peux partager les erreurs que tu as commises et comment Jésus ne t'a pas tapé dessus, mais t'a encouragé. Tu peux conseiller, tu peux avertir. Tu sais, quand j'entends, on a des jeunes qui vont se marier bientôt, et ils nous ont consultés, ils nous ont demandé des conseils et les démarches qu'ils font, à leur âge, on n'a pas fait ça. On n'a pas été aussi sage qu'eux, aussi prévenant, mais on veut s'assurer qu'on fait les choses de la bonne façon. Et si on devait s'asseoir avec eux et leur dire, mais regarde, nous on avait un peu... On était tout feu, tout flamme. Et puis, mon épouse, elle savait que j'étais son mari. Avant même qu'on se fiance, elle savait que c'était moi parce que Dieu lui en avait parlé. Et puis, ça faisait 10 ans que Dieu lui avait dit que c'était moi. Donc, elle était un petit peu impatiente. Elle avait hâte, tu vois. Elle avait hâte de se marier. Et puis, j'ai un arrière-plan français, OK, et antillais. Alors, elle est venue et moi, je respecte beaucoup mon épouse parce que non seulement elle a été patiente, elle a laissé Dieu la préparer, puis elle a dit, c'est le temps. Donc là, on a commencé à se fréquenter et puis elle m'a dit, veux-tu m'épouser? Alors, je lui ai dit, tu sais, je vous fais ça court. Hein. J'ai dit, mais tu sais, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à la femme de demander la main de son futur mari. Mais c'est au futur mari de demander la main. Mais il faut comprendre, ça faisait 10 ans qu'elle attendait. Elle avait raison. Je dis là, mon gars, tu sais, ça fait 10 ans, et en plus, elle savait où elle s'en allait. Elle m'a dit, on se fréquente pour se marier. C'est parce que je sais, on se fréquente pour se marier, et moi, j'ai un appel sur ma vie, et tu passes après Jésus. Elle a dit tout de suite. Alors, et j'ai dit, OK. J'ai dit, Seigneur, il faut que je sois prêt. Alors, je suis allé devant Dieu. Dieu m'a dit, c'est elle. Et quand Dieu m'a dit que c'est elle, j'ai dit, OK. Et là, le jour de son anniversaire, on est allé dans un beau petit restaurant romantique français. Et je lui ai présenté la bague. J'ai payé le vin, le champagne et tout. Même le propriétaire du restaurant est venu prendre des photos. Et je lui ai demandé en mariage. Okay. Et elle a dit oui. La preuve. Mais je bénis Dieu parce qu'elle le savait. Bon, maintenant, moi, je vais conseiller aux gars, ou plutôt, je vais conseiller aux jeunes filles, priez que votre futur fiancé vous demande en mariage, que ce soit lui qui le fasse. Okay? Ça, c'est le conseil que je donne. Messieurs, bougez-vous, allez devant Jésus, priez, dites Seigneur, est-ce que c'est le temps? Si c'est elle, oui, c'est elle, ne tardez pas. J'applaudis ça aussi. Mais c'est vrai, messieurs, tenez-vous devant Jésus. C'est vrai, moi je crois que les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes, ou elles deviennent matures beaucoup plus tôt. Elles savent ce qu'elles veulent beaucoup plus tôt. Elles ont les idées claires. Nous, les hommes, on est des fois sportifs ou on est dans les études, on est dans les choses, mais tenez-vous devant Jésus. Parce que quand Dieu précipite les choses, il faut être prêt. Okay? Il faut être prêt et c'est important. Ne soyez pas à la traîne, mais soyez. Dieu vous appelle à la tête, messieurs. À aller loin, à porter Christ là où il vous place. Et en allant dans la prière, Dieu va vous parler. Il va vous préparer. Et vous saurez quand c'est le bon moment pour faire votre demande. Mais la mission de l'Église, c'est les uns et les autres. C'est encourager à persévérer. La mission de l'Église, d'emmener les frères et sœurs à devenir les hommes et les femmes que Dieu dit qu'ils sont et les encourager à faire l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. Dieu nous appelle tous à partager notre foi. Dieu nous appelle tous à apporter la vie là où il y a eu la mort, à apporter l'espoir là où il y a eu du désespoir. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Il y a cette. Et l'Église est là pour nous rappeler qui nous sommes en Christ. Vous savez, la puissance d'une communauté. La puissance d'une communauté peut bouleverser une région, peut bouleverser un pays. Être ensemble. Ensemble dans la prière. Lorsque Dieu nous conduit à prier les uns pour les autres, Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si tu es tout seul chez toi, les uns et les autres n'existent pas. Mais tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le faire aiguise le faire. C'est ce que produisent les relations. Oui, dans le couple, il y a des moments difficiles. Oui, dans le couple, il y a eu des moments où mon épouse m'a assis et on a dit, il a fallu qu'on parle. Ou plutôt qu'elle me parle, ou que je lui parle. Mais en tout cas, on s'est parlé. Ça nous a aiguisés. Ça nous redresse. Ça fait mal. Ça pique. Mais ça nous grandit. Ça nous amène à changer. Ça nous amène plus loin, ça nous pousse. Vous savez, nous sommes, la parole de Dieu est vraiment intéressante. Elle a été écrite dans un contexte qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, mais dans un contexte, et je vais juste emmener un élément de ce contexte, dans un contexte de désert. Le peuple de la Bible, le peuple des Écritures, quand vous lisez, que ce soit Genèse, que ce soit les psaumes, que ce soit l'histoire de la vie de David, vous connaissez l'histoire de David et Goliath, que ce soit le Jésus qui devait aller en Galilée, ou qui devait aller à Jérusalem et passer par la Samarie parce qu'il avait un rendez-vous avec une Samaritaine qui allait puiser de l'eau dans un puits, que ce soit l'apôtre Paul qui voyage Lui qui était triculturel, il avait trois cultures, juive, romaine et chrétienne, qui devait aller à Rome. Il devait aller en Europe, il devait aller à Rome. Le peuple de la Bible, à cette époque-là, il y avait une notion pour laquelle on est un petit peu moins à l'aise, c'est que les déserts étaient très présents dans le quotidien de ces peuples-là. C'était très présent. Quand tu dois marcher plusieurs jours pour partir de Capernaum, qui est dans le nord de la Palestine, et aller à Jérusalem, tu marches. Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'Airbus, il n'y a pas de Boeing, il n'y a pas Air Canada, il n'y a pas Air France, il n'y a pas tout ça. Il n'y avait même pas encore Air Jérusalem. Mais un de mes garçons me dit, mais ils avaient leurs sandales, ce n'était pas des Air Jordan, mais c'était des Air Jérusalem. Des fois, mes garçons m'embêtent comme ça. Donc, ils devaient marcher. Mais ils devaient marcher des fois dans des endroits qui sont arides, qui sont hostiles. Pour les gens de la Bible, de Genèse à Apocalypse, vivre seul n'était pas envisageable. Vivre seul, tout seul, ne pouvait pas être envisagé parce que c'était trop hostile. Donc la notion de communauté était importante. Aujourd'hui, on te dit tu peux vivre seul. Des fois, il y a une mentalité d'individualité, mais un individu tout seul va mourir. On encourage l'individualité, mais on ne peut pas vivre. On peut pas vivre tout seul, sans électricité, sans eau potable. L'eau potable est accessible grâce à des usines de traitement de l'eau. Et qui travaille dans ces usines? C'est d'autres personnes. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai entendu des choses, des fois, des émissions, où des enfants croyaient que les vaches, on les trouve à l'épicerie. Puis c'est sous forme de steak. Non, il y a toute une chaîne de transformation. On ne peut pas vivre seul. On a besoin, en tant qu'être humain, de vivre en communauté. Et des fois, il y a ce mensonge de « non, tu peux vivre tout seul ». Mais quand il y a eu le verglas en 1998, combien il y a eu de détresse psychologique parce qu'il y avait des gens qui vivaient seuls. Mais si ton voisin vit seul, tu peux lui emmener une tourtière, tu peux lui emmener une tarte au bleuet, le saluer, dire passer et lui donner son courrier. Que tu diminues la distance entre lui et les autres. De sorte que s'il y a une situation de crise, c'est à ta porte qu'il va frapper. Tu es en train de répandre Jésus. Et l'Église, c'est ça. Juste à mon introduction, ça n'a pas d'allure. Donc la mission de l'Église, c'est les uns les autres, c'est de s'encourager à persévérer dans notre mission d'évangéliser. C'est d'être ensemble pour porter les fardeaux les uns les autres, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de s'encourager les uns les autres, d'être enseigné, de grandir. C'est un lieu où l'on grandit, où on apprend. C'est un lieu où on est enseigné, on est formé pour mieux entrer et mettre en œuvre la mission individuelle que le Seigneur a confiée à chacun. Il y a une différence. Il y a une différence entre l'Église universelle et l'Église locale, mais je pense que vous le savez. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour chaque Église locale, Dieu donne une vision. Nous avons tous la même mission en tant qu'Église. Nous avons tous le même mandat. Et j'aimerais rapidement, on va s'arrêter sur la mission et la vision, et on va prier parce que Dieu nous appelle à répondre à la mission qu'il place sur nos vies, mais aussi à marcher dans une vision qui est claire. Et si vous me permettez, en une phrase, je vais fixer la définition de la mission de l'Église. La mission d'une Église est une déclaration générale des objectifs de cette Église. Et pour le Carrefour des Nations, notre mission et que chaque personne puisse se reconnecter ou connecter avec Dieu, grandir spirituellement, servir Jésus et être propulsé dans la mission de l'Église. Nous avons besoin, comme Église, d'emmener, de répondre à cette mission de connecter les gens à Dieu. Et même de les reconnecter. Vous lirez sur notre page, notre site web. Pour nous, nous voulons accueillir chaque visiteur comme une personne VIP, importante. Nous voulons l'accueillir dans l'honneur. Mais nous voulons aussi nous accueillir les uns les autres dans l'honneur. Nous voulons permettre à chacun de se connecter à Dieu, de se réconcilier avec Dieu, de savoir qui est Dieu. Moi, à un moment donné, je pensais que Dieu était un Dieu, un Père absent, pas présent. Mais Dieu m'a montré combien il est présent. Ça a été une révélation. Je lisais Matthieu chapitre 6 et j'ai commencé à pleurer. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il me dit, je prends soin de toi. Je suis présent. Je ne suis pas celui qui condamne. Vous savez, il y a une étude qui a été faite. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis. Puis je pense qu'il y a des éléments de cette étude qui peuvent être appliqués ici. En résumé, il demandait comment les gens voyaient Dieu. Et en résumé, 75% des personnes sondées voyaient Dieu comme une source anxiogène. Soit pour certains, Dieu n'existait pas, ou Dieu existe, mais il ne s'occupe pas de nous et il nous demande de nous débrouiller. Ou Dieu existe, mais si tu ne respectes pas les règles, il va te punir. Il faut suivre les règles. Et il y avait 25% qui voyaient Dieu comme un Père aimant. Et Jésus est venu nous montrer le Père. Est-ce qu'il a donné des conséquences à la Samaritaine qui avait eu 5 maris et l'homme avec qui elle était, ce n'était pas son mari? Est-ce qu'il a lapidé cette femme qui a été emmenée par des scribes et des pharisiens pour tester Jésus, pour dire, mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et doit-on la lapider puisque la loi de Moïse nous le demande? Qu'est-ce que Jésus a fait? A-t-il pris une pierre? Est-ce qu'il a été le premier à prendre une pierre puis lui lancer pour accomplir la loi de Moïse? Il a dit, mais que le premier qui est sans péché lance la première pierre. Et il s'est mis à dessiner, à écrire dans le sol. Et à un moment donné, il a levé la tête, il a dit à cette femme, mais où sont ceux qui t'accusaient? C'est ça Dieu. C'est ça le Seigneur. Ce n'est pas un Dieu qui crée l'anxiété, mais c'est un Dieu qui console, qui rassure. Et on veut que les gens soient connectés, pas au Dieu de Bruno, mais au Dieu de la Bible. Mais Dieu veut, quand on se connecte à Dieu, Dieu se révèle et il révèle qui nous sommes en lui. Ce matin, on a eu ce temps de louange et on a lu Apocalypse chapitre 4, on a lu des passages du chapitre 5. Et Dieu dit que tu es sacrificateur. Tu es royal. Oui, ton bien-aimé, il est royal. Tu es royal. Si tu es royal, on ne peut pas te traiter n'importe comment. Et je parle aux femmes, vous êtes royales, vous êtes des princesses, de sorte que les hommes ne peuvent pas vous traiter n'importe comment. Là, j'ai pas de vrai amen, c'est quoi? C'est vrai. Les hommes sont des princes. En Christ, nous sommes des princes, nous sommes des fils de Dieu. Nous avons Jésus pour frère, mon ami. Il est le Seigneur de notre vie, mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Tu n'es pas n'importe qui, de sorte que tu ne peux plus te traiter n'importe comment. Je parlais avec une collègue que je respecte énormément. J'étais étudiant, J'étais étudiant en second cycle et j'avais un emploi à temps partiel. Et à un moment donné, je parle avec une collègue et on était dans le domaine des sciences et elle m'a dit, tu sais, je lui ai parlé de ma foi et elle me dit, donc si Dieu existe, je ne peux plus agir de telle et telle façon. Et moi, ça m'a touché parce que ça remettait beaucoup de choses en perspective. Et pour elle, ça remettait l'avortement en perspective. Parce que quand Dieu se révèle à toi et dit « tu es sa fille, tu es son fils », tu ne peux plus te traiter n'importe comment. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Se reconnecter à Dieu, se connecter à Dieu, nous amène à savoir qui il est, mais qui nous sommes en lui. La parole de Dieu nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. En tout cas, si tu ne t'aimes pas, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes, donc tu ne l'aimeras pas. Vous me suivez? Nous sommes, la mission du Carrefour des Nations, c'est que chaque personne puisse se connecter à Dieu, puisse grandir spirituellement. Je veux voir des géants se lever ici. Je veux voir des géants en Christ se lever ici. Des pères de famille, des mères de famille, des jeunes hommes, des jeunes femmes se lever. Dire, mais oui, et je bénis Dieu, il y a une sœur ici. Son travail a été breveté au niveau nord-américain. C'est des exploits, c'est des réussites. Mais que tu puisses briller davantage, que Dieu t'accorde sa faveur, que tu puisses emmener des révolutions dans la façon de travailler, même au niveau industriel, qu'il y ait des changements, qu'il y ait de l'innovation à travers ton travail. On célèbre cela. Vous savez, lorsqu'un père se lève ou une maman se lève à 5 heures du matin pour emmener ses enfants à un match de hockey, à un match de basket, de soccer, de volley, à un tournoi. Et puis, il y a de la neige et puis il faut déneiger l'auto. Ou l'été, tu aurais pu être peut-être plus à la plage qu'être à un tournoi de soccer. Et puis tu vois tes enfants réussir, prendre du plaisir à ce sport-là, et que tu vois l'entraîneur te dire, mais j'aimerais bien qu'il fasse partie de l'équipe élite. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai parlé à un autre entraîneur, et j'ai parlé de votre garçon, de votre fille, et ce serait bien, j'ai parlé de vos fils, de vos filles, de vos enfants, et il veut les voir jouer. Quand tu es un père ou une mère qui vit ça, est-ce que tu veux dire, attends, non, toi, tu ne m'as pas encore vu jouer au hockey. Laisse-moi prendre la place de mon fils. Non, tu ne fais pas ça. Mais tu te réjouis. Tu es fier. C'est comme si c'est toi qui as été sélectionné dans l'équipe élite. Tu es fier. Tu regardes, tes yeux brillent en regardant tes enfants. Et tu oublies que tu t'es levé à 5 heures du matin. Que tu as eu peut-être juste 4 heures de sommeil parce que tu as pris du temps avec ton époux ou ton épouse ou vous avez regardé quelque chose ou vous avez fait du ménage. Mais tu es fier. L'Église, c'est ça. Je suis fier de ma sœur. Je suis fier de mon frère qui prend sa place, qui grandit, qui se développe, qui pardonne, qui relâche l'offense. Qui dit, mais j'ai même pas envie de pardonner cette personne-là, tu sais, mais je vais le faire pareil. Seigneur, aide-moi, Père, à pardonner. Il dit, mais il y a tel projet, ça prend du temps, c'est dur, on dirait qu'on me met des bâtons dans les roues, dans les roues au travail, ça, c'est difficile. Pasteur, prie pour moi. Ou ils vont dire Viarel, prie pour moi. Roxane, prie pour moi. Nyota, prie pour moi. Jean, prie pour moi. Et puis, on prie, et puis il dit, oui, mais j'ai réussi, c'est ça a été. Les portes se sont ouvertes. On se réjouit de ça. Comme un père, une mère, ou même un grand frère qui voit son plus jeune frère ou sa plus jeune sœur réussir dans les sports. On se réjouit parce qu'on veut voir des géants se lever au milieu de nous. Ton succès devient mon succès. Tes pleurs sont mes pleurs aussi. Le faire aiguise le faire. Des fois, ça fait mal. Mais comment tu peux... Il y a quelqu'un qui disait, « Seigneur, apprends-moi à être patient. Donne-moi de la patience. » Mais pour avoir de la patience, il faut des situations qui étirent ta patience. Seigneur, je veux connaître ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Oui, tu veux être rempli de mon amour. OK, aide cette sœur-là que tu ne peux pas supporter. Et puis après, tu pries pour elle, puis vous devenez les meilleurs amis. Ou Dieu te donne, Seigneur, je ne veux pas arriver d'elle, je ne veux pas arriver concernant sa vie. Je veux pas, va lui dire cette parole-là. Mais Dieu est en train de guérir ton cœur, par exemple. Moi, j'étais quelqu'un d'égoïste. Et Dieu, OK, Seigneur, je n'ai pas le choix. Un pasteur égoïste, ça ne marche pas, tu sais. Grandir spirituellement, servir Jésus. Nous ne sommes pas ici pour que vous me serviez. OK? Vous n'êtes pas ici pour servir mon ministère. Non, dans l'église locale, on ne sert pas le ministère. On est là pour servir Jésus, servir sa personne. Et ce que nous désirons comme église au Carrefour des Nations, c'est amener les gens à être propulsés dans la mission. Il y a des gens, il y a des frères et sœurs qui quittent le Carrefour des Nations et qui maintenant, par exemple, sont pasteurs principaux en Ontario. Et ils sont partis dans la paix. On se réjouissait avec eux. Il y a une sœur qui, alors qu'elle allait, elle portait ce désir d'écrire un livre, ben elle a sorti son livre et elle n'était plus au Carrefour. Okay? Elle a commencé à écrire un livre pour les enfants. Et elle est dans des projets d'écriture. Mais on a levé une géante. Et on se réjouit de cela. Son mari vient jouer, est venu jouer à certains de nos concerts. On se réjouit. On veut propulser les gens. Et je veux terminer avec ça. La vision que Dieu a déposée sur mon cœur pour notre Église, c'est que le Carrefour des Nations existe pour que les gens expérimentent Dieu. Et c'est quoi expérimenter Dieu? C'est connaître Jésus et le faire connaître par la puissance du Saint-Esprit. Connaître Jésus. Pourquoi connaître Jésus? Jésus va dire, il va dire à Philippe, dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le contexte, c'est que Philippe a demandé à Jésus, montre-nous Dieu. Avant que tu partes, montre-nous Dieu. On veut le voir. Et Jésus lui répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que Jésus a accompli, il ne l'a pas fait de lui-même. Il a vu le Père faire, il a fait pareil. Tout ce que Jésus a dit, il ne l'a pas dit de lui-même. Il a dit ce qu'il a entendu le Père dire. Tout ce que Jésus a fait, c'est par l'Esprit du Père. Si le doigt de Dieu s'est approché, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai délivré cette personne, c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous. Et l'expression, le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si c'est par le Saint-Esprit que j'ai fait cela, c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous. Quand tu rencontres Jésus, tu rencontres Dieu le Père. On se dit, mais Dieu le Père, j'ai entendu les gens disent, Dieu le Père, Dieu est anxiogène, il fait peur. Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu sais que Dieu ne fait pas peur. Dieu rassure. Oui, Dieu est redoutable. On voit dans la parole de Dieu combien Dieu est redoutable. Mais est-ce que, vous savez, Il y a des personnes que je prends pour exemple dans ma vie. Et il y a des hommes contemporains, des amis que je prends pour exemple. Il y a des pasteurs, pour moi, ils m'inspirent. Mais quand ils sont inspirants parce que ils portent la présence de Dieu, ils communiquent l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Il y a des miracles qui se font à travers leur ministère. Il y a des gens qui sont restaurés. Mais comme père de famille, comme époux, ils sont doux, ils sont bénissants. Mais quand ils font l'œuvre, on voit une autorité dans leur vie et ça m'inspire. Oui, Dieu est redoutable. Mais comme père, il prend soin de ses enfants. Mes garçons savent, parce que je suis très humain, je ne suis pas un ange, ils savent que quand je me mets en colère et que je n'étais pas supposé me mettre en colère, je vais leur demander pardon. Mais quand ils font une bêtise et que je dois adresser cela, je vais pas me mettre en colère, mais ils savent que, ok, on va s'asseoir, on va écouter papa. Parce que là, papa, c'est sérieux. Mais ils savent que ils ne vont pas ils ne vont pas souffrir en me rencontrant. Il y aura des conséquences, mais ils savent que je suis un père aimant. Et on leur a appris, on s'est montré à eux. Je me suis montré dans mon authenticité. Oui, il y a des choses que je n'accepte pas. Mais ce sont mes garçons. Je mourrai pour eux. Et je les défendrai. Je vais les reprendre aussi s'ils font des bêtises, mais je vais les défendre. Un père aimant défend ses enfants. Et si... aussi imparfait je suis, parce que je ne suis pas un ange, je suis capable d'aimer mes enfants et de leur donner ce qui est bon pour eux. À plus forte raison, Dieu va nous donner de bonnes choses, va nous traiter avec amour. Oui, des fois, la pilule va difficilement passer parce qu'on sait qu'on a tort. Mais son amour est là et il nous console, il nous redresse, il nous fortifie. Et nous voulons montrer Jésus. On veut connaître Jésus, mais on veut montrer Jésus. On veut le faire connaître. C'est ça, expérimenter Dieu. On veut être une église qui poursuit la présence de Dieu, qui désire sa présence, qui désire sa parole. On ne désire pas, la parole d'un homme, on veut la parole de Christ. On veut la parole de Dieu. Et nous allons avoir des moments le dimanche, des fois on va comme être en pause. Tu sais, les moments, c'est là, comme on lit dans les psaumes. Tu sais, vous lisez les psaumes, puis c'est écrit pause. Il y a des moments d'arrêt. On veut juste, Seigneur, être dans ta présence. Seigneur, aujourd'hui, je sens de l'apathie, je sens du désintérêt, je sens de l'aigreur. Je me sens charnel, ça ne va pas. Je couperai la tête de tout le monde, Seigneur. Ça ne va pas aujourd'hui. Mais je vais aller dans ta présence. Seigneur, je suis prêt à me repentir. Seigneur, que l'orgueil de mon cœur ne puisse pas demeurer. Parce que l'orgueil précède la chute. Seigneur, retire ça de mon cœur. On s'arrête dans ta présence. Dieu ne repousse personne qui vient à lui. Personne. Et on veut être cette église qui poursuit la présence de Dieu, qui désire sa présence, qui désire vivre ce que la parole de Dieu enseigne. Notre théologie, vous savez, notre théologie, notre discours sur Dieu bouge, évolue. Tu sais, des fois, Dieu m'a déjà dit dans le passé, mais tu ne me fais pas confiance. Comment ça, je ne te fais pas confiance? Je t'ai donné ma vie, ça fait plusieurs années. Il dit, ça là, dans cet aspect de ta vie, tu ne me fais pas confiance. Tu as besoin de me faire confiance. Fais ce pas-là. Quand je lis les proverbes, encore aujourd'hui, je suis bouleversé. La parole de Dieu est vivante. Et on veut expérimenter cette parole, on veut la vivre. Mais on ne peut pas la retenir, on veut aussi la communiquer. Communiquer Jésus. Jean, on va s'arrêter là, vous avez été extrêmement patient, on va se lever. Et j'aimerais simplement prier. Je vais prier et je vous demanderai de rester, de nous accorder 5 à 10 minutes, c'est important. Après la diffusion, il y a des nouvelles importantes qu'on veut vous communiquer. Soyez avertis de cela. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons être ce peuple qui t'expérimente, qui expérimente Dieu. Nous voulons être ce peuple qui amène les gens à t'expérimenter, à te connaître, Jésus, et qui te font connaître par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être cette Église. Nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui se lèvent de leur chaise, de leur banc, et qui vont sur la patinoire, qui vont sur le terrain de la vie, et qui partagent ce que Jésus a fait. Seigneur, nous voulons être ces hommes qui vont sur le terrain, la patinoire de la vie, et qui prennent le temps de te connaître, qui prennent le temps de te chercher, parce qu'ils savent que sans toi, ils ne peuvent rien faire, que celui qui communique la vie, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons te connaître, nous voulons être des assoiffés et des affamés de ta présence, afin de communiquer ta présence autour d'eux. Seigneur, nous, peu importe le lieu où nous allons, nous sommes des hommes, des femmes d'influence. Nous influençons par notre présence, mais nous voulons choisir d'influencer selon le royaume des cieux. Nous voulons choisir d'influencer et d'apporter la vie et non pas la mort. Seigneur, ce matin, Seigneur, accorde-nous d'être ce peuple qui se lève et qui marche ensemble pour révéler, pour apporter et répandre Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je salue ceux qui sont en ligne. Je pense que c'est déconnecté.